Anciens espions ou patrons du Mossad, ils ont travaillé pendant des années pour la sécurité en Israël. Et aujourd'hui, ils demandent de l'aide à Donald Trump pour stopper la guerre à Gaza. Nous serons en direct de Jérusalem. Le bilan s'alourdit au large du Yémen. Au moins 76 migrants sont morts dans le naufrage d'une embarcation des Éthiopiens qui tentaient de rejoindre les pays du Golfe. Terminez la K-pop et les bulletins d'information dans les oreilles. La Corée du Nord, la Corée du Sud retirent ses haut-parleurs pour apaiser justement les tensions avec la Corée du Nord. Et puis, une vague de tsunami blanc, la cocaïne est partout en France, aucune zone n'est épargnée. C'est l'alerte lancée dans un document confidentiel de l'Office anti-stupéfiant, document que nous avons pu consulter. 550 anciens responsables de la sécurité en Israël demandent l'aide de Donald Trump pour stopper la guerre à Gaza. Ils sont anciens chefs espions, militaires, ex-patrons du Mossad ou encore du Shin Bet et ils signent une lettre destinée à Donald Trump. Une lettre rendue publique ce matin. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Lou, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, ces anciens responsables demandent donc au président américain de faire pression sur le premier ministre israélien pour stopper la guerre et libérer les otages.
Oui, ils ont en tout plus de 1000 ans d'expérience cumulée. Ils sont plus de 550 anciens responsables de haut rang, de l'armée, des services secrets intérieurs, le Shin Bet, et extérieurs, le Mossad, comme Tamir Pardo, ancien chef du prestigieux service de renseignement.
Nous nous camouflons derrière un mensonge que nous avons créé. Un mensonge qui est présenté au public israélien et à mon regret, le monde a déjà compris que ce n'est pas la réalité.
Ils écrivent à Donald Trump et présentent un clip vidéo destiné, lui, au public israélien. « Arrêtez la guerre à Gaza », exhorte ce courrier du mouvement des commandants pour la sécurité d'Israël, signé des chefs espions, militaires, policiers et diplomates, et qui a été rendu donc la nuit dernière, et a été rendu public la nuit dernière. « Nous avons le devoir de nous lever », alerte Ami Ayalon, ancien directeur du Shin Bet. Amos Malka, lui, est un ancien chef des renseignements militaires.
Tout d'abord, Israël doit présenter un projet d'accord global raisonnable, pas quelque chose qui, à l'évidence, sera rejeté par la partie adverse. Trouver une formule pour libérer les otages. L'armée doit se retirer sur un périmètre acceptable autour de Gaza et ensuite mettre en place un système de gouvernance civile avec les États-Unis et les pays du Golfe et d'autres.
Nous considérons en tant que professionnels que le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël, concluent les signataires de la lettre.
Michel Paul, correspondant RFI à Jérusalem pour France Culture. Et à l'instant, Israël déclare vouloir mettre la question des otages retenus à Gaza au centre, je cite, de l'agenda international, à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU justement sur ce sujet. À Gaza toujours, le Hamas pose ses conditions. Il acceptera que la Croix-Rouge apporte nourriture et médicaments aux otages israéliens, mais uniquement si des couloirs humanitaires sont ouverts pour aider la population gazaoui. Hier, en effet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à la Croix-Rouge de venir en aide aux deux Israéliens toujours retenus en otage. Des vidéos publiées par le Hamas les montrant très affaiblis. De son côté, la France doit encore larguer 28 tonnes d'aide humanitaire dans les prochains jours dans la bande de Gaza. Elle en a déjà largué 12 tonnes ce week-end. Le Canada, la Belgique, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni font pareil, mais ces largages aériens sont jugés insuffisants. La bande de Gaza est menacée de famine généralisée selon l'ONU. Au large du Yémen, le bilan s'alourdit. Au moins 76 morts dans le naufrage d'une embarcation transportant des migrants et toujours des dizaines de personnes portées disparues. Le bateau transportait principalement des migrants éthiopiens. Valérie Crova, des migrants qui tentaient de rallier les pays du Golfe.
C'est une route migratoire périlleuse, empruntée chaque année par des milliers de personnes, victimes du trafic d'êtres humains. Ces migrants traversent le détroit de Bab el-Mandeb, entre Djibouti et le Yémen, dans le but de rejoindre les monarchies du Golfe, qui emploient une importante main-d'œuvre étrangère, pour l'essentiel des clandestins qui fuient le continent africain. Ceux qui étaient à bord de l'embarcation, qui a sombré hier, venaient de la région Oromia, la plus peuplée d'Éthiopie, où l'armée fédérale combat depuis 2018 les rebelles de l'armée de libération Oromo, un conflit ethnique qui a des conséquences dramatiques sur les civils. Démunis face aux violences qui secouent leur région, certains n'ont d'autre choix que de quitter leur village dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, estime à 60 000 le nombre de clandestins arrivés sur le territoire yéménite l'an dernier en provenance de Djibouti, qui partage une frontière commune avec l'Éthiopie. Mais tous n'arrivent pas à destination. Plus de 460 personnes sont mortes en 2024 en tentant la traversée.
Valérie Crova pour France Culture. Au Liban, les familles de victimes s'apprêtent à commémorer aujourd'hui les 5 ans de l'explosion du port de Beyrouth. Cette explosion, qualifiée par les experts comme l'une des pires déflagrations non nucléaires de l'histoire, avait fait 235 morts et plus de 6500 blessés. Les responsables, 5 ans après, n'ont toujours pas été identifiés. La Russie va recevoir mercredi ou jeudi un émissaire de Donald Trump et cette visite sera, je cite, « importante et utile » selon Moscou. Nouveau coup de pression des États-Unis alors que le président américain a donné jusqu'à vendredi prochain à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, justement, pour faire face aux attaques russes, une économie solidaire s'organise. Plusieurs entreprises et associations se sont reconverties dans la production artisanale d'armements, de médicaments ou encore de nourriture à destination des soldats ukrainiens. C'est le cas notamment dans la ville de Lviv, où une association de volontaires qui s'appelle Cookit cuisine et fournit l'armée en nourriture. Reportage de Bastien Bory et Yachar Vasilov.
Dans le fond du local, Sergui trie des champignons séchés donnés par une voisine. En face de lui, un mur de carton que Rosie Lay, 26 ans, directrice de l'association, remplit de plats préparés, téléphone à la main.
La 3e brigade d'assaut nous a écrit sur Instagram. Ils veulent des rations pour 20 soldats.
Ok, donne-moi une balance, s'il te plaît.
Personne ici n'a une minute à perdre, car à 1000 km de là, une guerre d'usure épuise des régiments entiers.
Dans une des vidéos qu'on a reçues du front, on voit des soldats tenir dans leurs mains des bols de soupe chaude qu'on leur avait préparés. Leurs mains tremblaient, ils étaient très fatigués, mais ils nous remerciaient et nous disaient qu'ils étaient heureux de ne pas avoir été oubliés.
Soupe, pâte de fruits, bouillie de céréales, tout ici est cuisiné, déshydraté, emballé. Et cela dure depuis 3 ans et demi sans qu'aucun de ces volontaires ne touche un sou.
Parce que nous sommes bénévoles, nous ne pouvons pas être enregistrés en tant qu'entreprise de production alimentaire, donc nous ne pouvons pas gagner d'argent.
L'économie de guerre laisse en effet peu de place aux initiatives d'aide alimentaire, dont plus de la moitié signale des difficultés à se procurer des ingrédients de base.
L'économie de guerre doit être alimentée, pas seulement par l'État, mais aussi par chacun d'entre nous.
D'une cuisine de quartier comme il en existe tant en Ukraine, ces cartons partent pour les lignes de front où l'armée russe arrache jusqu'à 20 km² de territoire par jour.
Bastien Bory, Yachar Vasilov. Des manifestants habillés en vert et jaune, couleur du pays, avec dans les mains des pancartes « Merci Trump ». Au Brésil, des dizaines de milliers de pro-Bolsonaro ont manifesté hier dans les rues de Sao Paulo, Rio de Janeiro ou encore Brasilia. Ils sont descendus dans la rue pour remercier les États-Unis d'avoir sanctionné le juge chargé du procès de l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro est visé par une enquête pour obstruction présumée de son procès pour tentative de coup d'État. Démonter des haut-parleurs pour apaiser les tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ce matin, Séoul annonce avoir commencé à retirer les haut-parleurs placés à la frontière, des haut-parleurs utilisés pour diffuser de la K-pop et des bulletins d'information en direction des voisins du Nord. Ils avaient déjà cessé d'émettre depuis un mois et demi. Le gouvernement sud-coréen assure que ces haut-parleurs seront tous démontés avant la fin de la semaine. Bonjour Rosalia MacArthur.
Bonjour.
En mettant fin donc à la guerre sonore, le nouveau président de Corée du Sud espère rétablir la confiance avec Pyongyang.
À travers ce geste, il prend le contre-pied de son prédécesseur. Lui avait décidé de rallumer ses haut-parleurs l'an dernier pour riposter aux milliers de ballons remplis d'ordures envoyés par la Corée du Nord. Mis en place dans les années 50, au moment de la guerre de Corée, ses haut-parleurs n'avaient pas retenti depuis 6 ans. Depuis le mois de juin, le calme est est revenu à la frontière. Plus de propagande ni de musique K-pop. Le nouveau président sud-coréen a pris cette décision peu après son élection. Il a promis de tendre la main à Pyongyang, arguant que, je le cite, « quel qu'en soit le coût, la paix est préférable à la guerre ». En retour, et contre toute attente, la Corée du Nord a cessé dans la foulée ses diffusions de bruitages terrifiants. Mais malgré les ouvertures diplomatiques du Sud, le Nord rejette l'idée de poursuivre le dialogue. C'est la sœur du dirigeant nord-coréen qui l'affirme, je la cite, « si Séoul espérait inverser la situation avec quelques mots doux, il n'y a pas pire erreur que cela ».
Les précisions de Rosalia MacArthur. La cocaïne circule partout en France et son offre est désormais sans zone blanche. 37 tonnes saisies sur les 6 premiers mois de l'année, un record, c'est du jamais vu. C'est 50% de plus que l'an dernier sur la même période. Et c'est l'Office anti-stupéfiants qui alerte dans un rapport confidentiel. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
Un rapport que vous avez pu consulter et dans lequel les policiers spécialisés dressent un panorama inquiétant du trafic de stupéfiants en France.
Oui, pour eux, la violence et l'argent du crime sont érigés en contre-culture et marginalisent les citoyens prisonniers des territoires contrôlés par les trafiquants. La violence radicalise et 367 assassinats ou tentatives d'assassinat l'an dernier, liés majoritairement au narcotrafic, des crimes qui ont touché 173 villes en 2024, dont des petites communes comme Florange. Des trafiquants qui, peut-on lire dans ce rapport, s'approprient les espaces communs et dans certains cas exercent un véritable pouvoir social à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Des habitants ont eu la surprise de recevoir dans leur boîte aux lettres un courrier leur proposant des aides en tout genre, courses, bricolage, en contrepartie des désagréments occasionnés.
Et ce rapport de 62 pages dresse aussi le portrait des acteurs du narcotrafic en France.
Oui, au total, potentiellement 200 000 personnes tirent profit à des degrés différents d'un trafic dont le chiffre d'affaires en France est estimé à 7 milliards d'euros. Dans une sorte de hiérarchie pyramidale, au sommet, le haut du spectre, une dizaine d'organisations qui contrôlent la quasi-intégralité des importations en France. En dessous, les filières de distribution. Et puis tout en bas, les plus nombreuses, ceux qui vendent au détail partout en France et pas seulement sur les points de deal. 2700 fin juin, leur nombre a diminué de 30% en 5 ans, car les vendeurs trouvent toutes sortes d'alternatives. Les Uber Sheet, les livraisons à domicile et même des appartements mis à disposition des clients baptisés les Airbnb.
Et puis une autre expression significative dans ce rapport pour parler de la présence de la cocaïne en France. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parle, je cite, d'un tsunami blanc. Les flammes dans une maison de retraite du Gers cette nuit. Un incendie a pris dans un EHPAD de l'île Jourdain. Il a fait 3 blessés graves, 2 résidents de 85 ans et une femme de 86 ans en urgence absolue. Ce sera le succès ou la négociation, ou de la négociation, ou bien la fin de l'histoire. Altis, la maison mère de SFR, attend ce soir une décision de justice cruciale pour son avenir. Validée ou non sa procédure de sauvegarde, le groupe possédé par le milliardaire Patrick Drahi avait trouvé un accord avec ses créanciers pour alléger sa dette colossale de 24,1 à 15,5 milliards d'euros. Voici une nouvelle étude qui confirme la conséquence du plastique sur notre santé et celle de la planète. Une trentaine de chercheurs publient aujourd'hui un rapport dans la revue The Lancet. Rapport publié alors que demain s'ouvre à Genève les négociations de la dernière chance pour aboutir au premier traité mondial contre la pollution plastique. Bonjour Raphaël Ben Abdelmoumen.
Bonjour.
Que dit le rapport alors Raphaël ?
Eh bien plus qu'une étude, c'est un compte à rebours. Les scientifiques ont en fait développé une sorte de boussole pour suivre année après année les conséquences de la pollution plastique sur la santé. L'objectif, c'est de documenter les effets du plastique à chaque étape de la vie du matériau. Ça va des polluants émis lors de sa production jusqu'aux conséquences de l'exposition au plastique tout au long de la vie humaine.
Et le premier constat, Raphaël, dans le rapport publié aujourd'hui, c'est un constat accablant.
Oui, c'est que la production de plastique a été multipliée par plus de 200 depuis 1950. Et si rien n'est fait, on pourrait atteindre les 1200 mégatonnes produites chaque année d'ici 2060. Ces quantités astronomiques, elles finissent bien souvent dans la nature. Seuls 10% du plastique dans le monde est aujourd'hui recyclé. Mais ce que relève surtout ce rapport, c'est que la pollution en matière plastique n'est pas seulement une menace pour l'environnement ou le climat, c'est également un danger danger pour la santé humaine. Les plastiques sont à l'origine de dizaines de milliers de décès par an, alertent les scientifiques. Comme souvent, ce sont les populations les plus précaires qui en sont les premières victimes, les ouvriers qui travaillent dans les usines de production et les populations qui vivent à proximité. Le rapport chiffre les pertes économiques liées à ces pathologies à plus de 1300 milliards d'euros par an. Bref, le monde est dans une crise du plastique, conclut l'étude. C'est pour tenter de sortir de ce tout plastique que les représentants de près de 180 pays se sont donc donné rendez-vous demain à Genève.
Eh oui, ultime session donc après l'échec des négociations menées en Corée du Sud en décembre dernier. Raphaël Ben Abdel Moumen pour France Culture. Et puis quelques mots pour vous parler de la météo. Sur les deux tiers du pays sud, le soleil s'impose, mais le ciel est nuageux par endroits. Côté température, 22 à 24 degrés le long des côtes de la Manche. Il va faire jusqu'à 36 degrés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec Alix Forgeot.